enfants comme ces deux jeunes filles. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. J'étais en overdose à ça. Je me droguais, je prenais des acides, j'étais dans le mouvement hippie. Et un jour, une personne m'a dit, enfin, elle était joyeuse, elle avait quelque chose que je n'avais pas. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui vous rend joyeuse comme ça? Elle avait une cinquantaine d'années, pour moi, 50 ans, c'était trop vieux. Je ne voulais pas devenir vieux. Je voulais mourir à 35 ans dans les neiges éternelles de l'Himalaya. Un peu, vous savez, quand vous avez 15 ans, vous avez des grands voyages hein, comme ça dans votre tête. On a tous des modes à notre époque, et ça, c'était la mode. Jusqu'au jour où j'ai vu vraiment des gens se droguer aux drogues dures et faire des crises de manque, où ça m'a amené à réfléchir. Et quand j'ai rencontré cette femme, je dis, j'aimerais avoir ce que vous avez. Elle m'a dit, j'ai rencontré Jésus-Christ. Pour moi, ça me paraissait, mais je dis, elle est dingue. C'était pire qu'un acide, ça, de me dire ça. Elle est dingue. Mais j'y ai été, et je peux vous dire que Jésus a changé ma vie.
Amen.
Complètement changé ma vie. C'est pour ça que je suis devenu pasteur, parce que pour moi, je dois témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Non pas une religion, mais une rencontre personnelle avec lui. J'aimerais vous parler du... Vous savez, il y a deux catégories de personnes sur cette terre. Je dirais peut-être trois, mais on va prendre ces deux-là. Il y a ceux qui doutent, et il y a ceux qui ont la foi. Où Dieu existe, le diable existe aussi. Si le diable n'existe pas, Dieu n'existe pas. Ou alors les deux existent, et c'est une vérité, donc il y a le doute et la foi. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre cœur, si vous doutez, si vous ne croyez pas, ou si vous avez la foi. Une foi simple, on va le voir. Le doute, le grand théologien du doute, c'est le diable. Lorsqu'on voit dans le jardin d'Éden, il a simplement dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit ce que vous pensez? Il a commencé à les amener dans un processus de réflexion où ils ont discuté ensemble, ils vont s'égarer et ils vont se perdre pour faire rentrer le péché dans l'humanité. Plus tard, il essaiera de faire la même chose avec Jésus, mais Jésus lui dira, il est écrit. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible. Alors moi, je vais vous expliquer. À 24 ans, quand je me suis converti, quand on m'a donné ce pavé-là, je dis jamais je lirai un truc pareil. Jamais. Eh bien, je peux vous dire que ça fait plus de 30 fois que j'ai lu. Parce que pour moi, c'est le livre de vie. C'est un livre exceptionnel. Et Jésus lui disait au diable, la Bible, voilà ce qu'elle dit. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Dieu a dit. Et le doute, c'est un redoutable levain. Adam et Ève vont ouvrir la porte au diable et du doute va être entraîné dans une tentation qui va les entraîner dans une perte. Ça fait des milliers d'années que des gens suivent le même chemin qu'Adam et Ève, le même chemin. Vous savez par exemple aux Juifs, au temps de Jésus, qui contestaient Jésus, il leur a dit « Vous avez pour père le diable, quand vous faites les œuvres de votre père. » Et les Juifs diront « Non, non !» On est fils d'Abraham, on descend d'Abraham, de la grande lignée d'Abraham. Il dit non, si vous aviez pour père Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ça veut dire que vous auriez la foi, et vous ne l'avez pas la foi. Vous êtes des douteurs, vous êtes dans une religion qui est morte. Jésus dira, on reconnaît l'arbre à son fruit. Au doute, il dira, il est écrit. Car le doute empêche de discerner l'œuvre de Dieu, d'ouvrir notre intelligence aux choses de Dieu. Et c'est ce qui va se passer quand Jésus va ouvrir l'intelligence à ses disciples, pour qu'ils comprennent. Dans Luc 24, 41, 44 à 47, il va nous le mettre là, vous allez voir, c'est écrit. Jésus va ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent. Vous savez, j'aimerais vous dire que le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie, pour moi, c'est une révolution, parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est comme si Jésus était à côté de moi, c'est comme s'il me mettait la main sur l'épaule, c'est comme si une œuvre puissante rentrait dans mon cœur, c'est comme si des vagues de paix pénétraient mon existence, des vagues de joie, et ça ne m'a jamais quitté. En 30 secondes, même pas, je passais des ténèbres à la lumière d'un douteur, je voulais crier au monde entier que Jésus-Christ était vivant, qu'il avait le pouvoir de guérir, de délivrer, de sauver, et qu'il était capable de changer les vies. Et c'était lui le vrai bonheur. Il avait transformé mon existence. Et c'est ce qu'il va faire, il va ouvrir l'intelligence, regardez. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous ai dit lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. On continue. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent ces écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Waouh. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Waouh! Il leur ouvrit l'intelligence. Père éternel, ouvre l'intelligence dans cette salle. que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, non pas mes paroles, mais ton Saint-Esprit, qu'il appuie ses paroles dans les cœurs et que des âmes puissent s'ouvrir à l'intelligence, que l'intelligence de chaque personne puisse s'ouvrir pour comprendre ce qui est écrit de toi dans la Bible. Merci Jésus. Amen. Tellement important. Jésus va se réjouir en déclarant, il va dire une chose qu'il pourrait dire peut-être ce matin, que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents et qu'il les a révélées aux enfants, à ceux qui croient. Un gamin, vous avez des enfants ? C'est la première chose qui m'a marqué. Mes enfants, quand j'étais au bout d'une pièce et que je l'appelais, je dis « Viens, dans les bras de papa !» Ils couraient, ils me sautaient dans les bras. Jamais mon gamin aurait pensé que je m'écarterais pour qu'il aille dans le mur. Confiance totale en son père qu'il l'accepterait, enfin qu'il le prenne dans ses bras. Et quand Jésus dit « Les enfants ont la foi », c'est cette foi-là que Dieu vous demande. De croire que de se jeter dans les bras de Dieu, il est là pour vous recevoir, il est là pour agir, il est là pour bénir. Amen. Lui a caché, révélé aux sages, aux intelligents, aux enfants. Donc les sages et les intelligents de ce monde, et si vous prenez et vous considérez que dans cette catégorie-là, les choses vous sont cachées, mais si vous avez la foi d'un enfant, ces choses vous seront révélées. Dieu va les révéler. C'est la manière d'agir de Dieu, c'est la pédagogie du Créateur. Heureux les humbles, ceux qui savent être petits, parce que le royaume des cieux est pour eux. L'orgueil, la suffisance, la prétention s'opposent trop souvent dans notre monde. Je dirais même que parfois vous trouvez ça même dans nos églises. Nous ne savons pas tout. On doit être assez humble, respectueux, laisser Dieu nous enseigner. Comme il enseignait Nathanaël, si tu peux me mettre Jean 1, 47 à 49, on va voir cet homme qui va rencontrer Jésus et qui est un religieux, qui a sa religion, mais qui ne connaît pas la vie. Tant de religieux qui ont une religion, quelle que soit la religion, ne connaissent pas le Dieu du miracle, le Dieu de la grâce, celui qui intervient, celui qui agit dans les vies. C'est celui-là que je vous propose de rencontrer ce matin. Amen. Dans Jean 1, 47 à 49, Alléluia. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Amen. « Avant qu'il ne te parle, je t'ai vu sous le figuier dans la prière. » Waouh ! Et Nathanaël n'avait jamais rencontré Jésus. Jamais. Ça, c'est fort. Lorsque Jésus allait dans une maison qui s'appelait Marthe, Marie et Lazare, on sait que Marthe pleurait, son frère Lazare venait de mourir, et il va lui donner des paroles d'encouragement. Il vient plus tard, Lazare est dans le tombeau, et il va lui dire, « Si tu crois, Marthe, tu vas voir la gloire de Dieu. »
Waouh !
Ton frère va ressusciter. Ça paraît fou. Ça paraît fou, non ? Un message comme ça, on vous dit ça, ton frère va ressusciter. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu doutes, tu ne verras rien. Mais si tu crois, tu vas la voir. Et la foi illumine, transcende l'intelligence, alors que le doute et l'incrédulité obscurcissent. Jésus dira à Nicodème, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il dira aux Galates, vous avez commencé par l'esprit, vous finissez par la chair. Souvent, c'est le problème. Il y a une œuvre de Dieu dans notre vie, mais on revient à cette intelligence basse, je dirais charnel, qui nous emmène dans des doutes, dans des à peu près, des à proximité. Alors que la foi, c'est croire. Il y a un verset qui dit, il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu. Ça fait 45 ans que je prêche l'évangile à peu près. J'ai vu des miracles de mes yeux. De mes yeux, j'ai vu des gens se lever de chaises paralysées. Et je n'ai pas lu ça dans un livre. Au Congo, on vient de baptiser une Congolaise. J'ai vu des grâces, des bénédictions, la puissance de Dieu se manifester. À Madagascar, j'ai vu la grâce et la puissance. Au Centrafrique, alléluia, la gloire de Dieu. Parce que Dieu est à l'œuvre dans le monde entier. Et quand quelqu'un a la foi, tu agis. Je vous raconterai un témoignage tout à la fin, que j'ai entendu il y a 15 jours, je vous expliquerai. La foi illumine. Comment ? Vous avez commencé par l'esprit. Nous avons la fâcheuse tendance d'oublier de vivre les réalités d'une foi simple, profonde, de l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Et Paul mettait en garde Timothée à cause des discours vains et discours, des raisonnements vains, alléluia, qui tuent la foi. Et souvent, on cause tellement qu'on n'a plus la foi comme un enfant. Mais imaginez que je dise à mon enfant, ne cours pas, ton papa ne va pas te recevoir dans les bras, il va s'écarter. Mais l'enfant va commencer à dire, ah, il peut ? Mais l'enfant n'a pas ce doute-là, tant qu'on ne lui a pas parlé. Il croit que son père est là comme un pilier qui va le recevoir. Et croire en Dieu, c'est avoir une foi d'enfant, de croire qu'il peut agir, qu'il peut bénir, qu'il peut répondre. Ma femme qui est là, elle devrait être morte à 20 ans. Elle devrait être morte. Elle avait une opération avec des intestins coupés, etc. À la suite d'un... l'enfant est né, le premier bébé est mort. Elle est née, elle devait mourir. Enfin, le chirurgien qui l'a opéré, il est parti en vacances. Quand il est revenu, il dit, j'aurais jamais cru, je vous retrouverai, vous. La prière a fait l'œuvre dans le corps de ma femme. Elle est là aujourd'hui. Amen. Même le médecin était surpris. L'aveugle de naissance a eu une bonne attitude. Vous savez, ce gamin, enfin, il y a Jésus qui rentre dans le temple, il voit un homme qui est aveugle de naissance, et on s'aperçoit que les religieux vont refuser, vont contester, parce qu'il va être guéri de sa cécité, et ça va causer avec les pharisiens, et les pharisiens vont dire, mais non, tu n'étais pas aveugle. Ben, si, j'étais aveugle. Mais non, ils vont voir les parents, votre gamin, il n'était pas aveugle. Ben si, il est aveugle. Ben, pourquoi qu'il voit? Ben nous, on ne sait pas. Mais il dit que c'est l'homme là-bas. Mais oui, mais lui, il dit, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je sais qu'une chose, c'est comment j'étais aveugle. Et maintenant, je crois et je vois. Amen. Un paralysé, vous lui direz ce que vous voulez. Il vous dira, avant, j'étais dans cette chaise. Maintenant, je marche. C'est l'œuvre de Dieu. Simplement une question de foi. Moi, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est dans Jean 9, 30 à 41. L'aveugle dira, je sais une chose. Et pour moi, ma vie, je sais une chose, je peux vous le dire. Jésus a changé véritablement ma vie, transformé ma vie. Et vous savez, quand je parle des choses simples, de ceux qui doutent, ma famille, c'était des... Waouh, c'était des chauds. Loin de Dieu. Mon père, il appelait les curés les corbeaux. Alors, vous n'avez qu'à voir dans l'atmosphère dans laquelle je vivais, à ce niveau spirituel. Alors moi, quand je me suis converti, c'était tellement simple, tellement glorieux. Je me suis dit, je vais le dire à mon père, à ma mère, c'est les premiers à qui je vais témoigner. Quand j'ai rencontré mon père, je lui ai dit, papa, j'ai rencontré Jésus. Il m'a dit, mais ça y est, il est complètement fou. Dans quoi il s'est encore engainé? Voilà ce qu'il a dit. Il ne comprenait pas. Et moi, j'étais surpris. Pour moi, ça paraissait simple. Et lui, il ne comprenait pas ce que je lui disais. Il disait, mais Jésus peut changer ta vie, Jésus peut pardonner tes péchés, Jésus peut transformer ton existence, il peut donner la joie, la paix. Et j'ai l'impression de tomber contre un mur, ça ricochait, il ne comprenait pas ce que je lui disais. Un truc de fou. L'aveugle dira, je sais une chose. Paul dira, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Nathanaël dira, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Il lui répondra, parce que tu as dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses encore. Pierre va dire, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Quand Jésus dira, jette ton pied sur le côté droit de la barque, il le fera et Pierre tombera à genoux. Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Quand Dieu vous touche, je peux garantir que vous sentez votre misère, ce que vous êtes véritablement et le besoin d'une résurrection intérieure et d'un pardon. Amen. D'une repentance sérieuse, sincère, qui fait de vous une nouvelle créature. Quand j'ai pris mon baptême, comme toi, je vous garantis que c'est vrai, j'ai eu l'impression qu'on m'avait mis un coup de karcher à l'intérieur de ma vie. J'étais comme un enfant, j'étais comme un bébé, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus de saleté, qu'il n'y avait plus de choses. C'est un truc de fou, un truc de fou. C'est vraiment l'œuvre de Dieu dans l'être humain. Alors, il y a de ce que Dieu veut faire dans chaque homme, dans chaque femme qui veut croire en lui. Amen. Le centenier dira, mon serviteur est malade. Il dit, bon, je vais aller avec toi. Non, dis un mot. Il est guéri parce que tu es Dieu. Moi, je suis centenier, je commande aux soldats, ils le font. Toi, commande la maladie. Et la maladie partira du corps de mon serviteur. Et la maladie est sortie. Vous avez toujours deux chemins. Celui que Marthe, à qui Jésus dira et la mettra face à l'impossible, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ou celui de Thomas, si je ne vois pas ces marques dans ses mains, je ne croirai pas. Pourtant, quand vous lisez la vie de Thomas, c'est un des disciples qui a vu des miracles, des résurrections, des transformations. Et quand on lui dit Jésus est mort, il est ressuscité, on l'a vu, c'est ses potes qui lui disent qu'ils l'ont vu. Ah ça, je ne peux pas croire. Ah ça, je ne peux pas croire. Vous avez des gens, ils ne peuvent jamais croire ce que les autres disent. Comme si c'était des fabulateurs. N'étais-je pas dit, lui a... Ça marque devant le tombeau, alors qu'elle reproche à Jésus de ne pas être venu plus tôt, Jésus va lui parler de la résurrection. Et elle a une foi théorique, une foi religieuse. Elle dit oui, il va ressusciter au dernier jour. Vous savez, pour nous, ressusciter, on espère que c'est la religion qui nous dit qu'on va ressusciter. On va, voilà. Mais non, c'est Jésus, quand il parle de résurrection, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite là. Dans ton être intérieur, tu peux commencer à vivre une résurrection. Et après, il y a une conviction. Et Marthe, elle dit, mais il va ressusciter au dernier jour. Et Jésus dit, non, je vais le ressusciter maintenant. Elle lui dit, quand Jésus dit rouler la pierre, elle dit, mais il sent. Il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est pour ceux qui croient. Ceux qui ont la foi, ceux qui s'engagent, lui a ne t'ai-je pas dit, appelle à s'appuyer sur la parole comme Pierre, sur ta parole je jette le filet, ou comme le centenier, dis seulement un mot. Et ce n'est pas compliqué. L'évangile, mais il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas besoin de jeûner 40 jours, il n'y a pas besoin de faire des chemins de croix, il n'y a pas besoin de faire ceci et cela, ou d'aller je ne sais pas où, jusqu'à Jérusalem à pied, ou en conquistador, ou en ce que vous voulez. Il suffit de croire dans votre chambre, de faire une prière et de dire Seigneur, je veux croire en toi. Si tu existes, change ma vie et je vous garantis qu'il ne tardera pas à faire une œuvre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple, si tu crois, tu verras. L'intervention de Dieu se fait en réponse à une foi vivante. À l'inverse, Thomas qui raisonne, qui doute, qui rejette le témoignage de ses frères, qui eux affirment avoir vu Jésus ressuscité, il proclame son incrédulité. Si je ne le vois pas dans la marque dans ses mains, je ne croirai pas. Jésus dira, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux celui qui croit sans voir, alléluia. La marche de la foi n'exige pas de tout voir, de tout comprendre pour voir un miracle. Abraham, c'est Sarah. Waouh, t'as un sacré nom, hein? Parce qu'elle a suivi son mari. Et qu'est-ce qu'a dit Dieu à Abraham? Quitte ton pays. Je t'emmène dans un pays que tu ne connais pas. Et il est parti, le gars. Marche de la foi. Sans savoir où il allait. Ça paraît complètement fou. Et la parole de Dieu dit que ceux qui croient comme Abraham, le croyant, les promesses d'Abraham sont pour eux. Amen. Et lisez la vie d'Abraham, vous verrez les grâces qu'il a eues, les bénédictions qu'il a eues. Il est écrit, alléluia, alléluia. Abraham refusa, j'aimerais juste dire ça, je vais bientôt finir. Abraham a refusé de s'enfermer dans une logique humaine. Quand Dieu vous appelle, si vous vous réfugiez dans une logique humaine, il y a des choses que vous allez laisser de côté. Je vous appelle, c'est Anaïs, elle a parlé de surnaturel. Le surnaturel existe. La vie spirituelle existe. Moi j'ai vu, elle dit qu'elle a, moi j'ai vu des gens possédés. Je vous garantis que vous réfléchissez à deux choses après. Ah, je vous garantis que j'ai vu des gens. Ah, vous êtes dans un monde parallèle. Hein. Vous dites, c'est la folie, ce truc-là. Un truc de fou. Hein. Et vous apercevez que les démons existent, que les puissances existent des ténèbres, mais que la gloire de Dieu existe aussi et que Dieu veut nous délivrer de cela. Alléluia, il est venu pour nous délivrer. Il est resté inébranlable. Il espéra contre toute espérance. Il a marché dans une foi vivante et persévérante. Il ne s'est pas arrêté à la logique humaine. Il s'est avancé à Abraham et il a obtenu les promesses. Promesses de salut, promesses de vie éternelle, promesses de guérison, promesses de grâce, promesses de bénédiction. Alléluia, ou je prends le chemin de la foi. Alléluia, Seigneur, alléluia, et je crois que Dieu va agir dans ma vie. Ou je prends le chemin du doute. Je suis entièrement libre. C'est moi qui fais le choix. Vous savez, je ne suis pas contre ceci, contre cela, contre cela. Dieu ne m'a pas appelé et ne nous appelle pas, nous les chrétiens, à être contre ceci, à revendre qui ceci, cela. On a à prêcher la vérité, vous en faites ce que vous voulez. Ou vous croyez, vous ne croyez pas. Vous êtes entièrement libre et Jésus n'a jamais imposé à qui que ce soit de croire en lui. C'est de cœur qu'on croit en lui. C'est de cœur qu'on veut faire une expérience avec lui. C'est de cœur qu'on veut marcher pour lui. Et là, il agit. Mais il ne nous obligera jamais à rien. Mais on aura les conséquences de nos choix. Et ça, il faut en être responsable. Et ce n'est pas la faute des autres. Jésus dira, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Souvent, Jésus disait, crois-tu que je puisse faire cela à l'aveugle Bartimée, tu crois que je peux le faire? Oui. Alors, que ta foi soit exaucée. Et l'aveugle voyait. Vous savez, j'arrête. Je vais vous donner un témoignage extraordinaire. Il y a 15 jours, j'étais à Dunkerque. Et voilà un frère chez qui je loge, qui me parle. Parce que je connais, j'ai plusieurs amis, un pasteur a plusieurs amis qui parlent de moi à ce pasteur-là. On parle de ce pasteur-là à moi. On ne s'est jamais rencontrés. Il s'appelle Christian Vives. Il est vers Rennes, il est pasteur là-bas. Et son ami qui a logé chez eux quand il était petit, quand il revenait de l'Afrique du Nord, quand ils étaient obligés de partir, il a logé ces gens-là, il dit, je vais te raconter le témoignage du papa et de la maman de Christian Vives. Une famille, comme toutes les autres familles, sauf qu'il y avait des anti-dieux, anti-tout ce qu'on veut, et le papa très très dur, mais dur. Pour vous, sa femme était juive, il détestait les juifs. Alors, ce qu'il disait à sa femme, tu peux pas crever. Tu n'en as pas marre de vivre, tu ne peux pas crever un peu, parce qu'il disait. Truc de fou. Et cette pauvre femme, elle tombe malade d'une sclérose en plaques. Et lui, toujours dans ses insultes, il était gardien de prison. Toujours dans ses insultes, toujours dans sa... Et à un moment donné, elle dit, écoute, je vais aller à l'hôpital. Il faut que je me fasse soigner. Toi, tu te débrouilles avec les gamins. Et là, il a pris peur. Parce que ce n'est pas son truc. Et il a commencé à dire, non, tu ne peux pas faire ça, tu sais, faut que tu restes, etc. Et puis, elle est restée, mais il est devenu un petit peu plus doux, mais sans devenir le mari qu'elle attendrait. Hein. C'était un dur de chez dur. Et puis, il me dit un jour, ils avaient la télévision ouverte, c'est vieux ça, hein, et il y avait 5 colonnes à la une. Et il y avait comment ça, un pasteur qui prêchait, un pasteur américain qui prêchait, c'est... Pas Billy Graham, c'était Oral Roberts. Il prêchait, et il prêchait la guérison divine, la délivrance, que je vous prêche aujourd'hui, maintenant. Et elle est assise sur sa chaise, et ils entendent tout ça. Et à un moment donné, il dit, vous qui êtes derrière la télévision, croyez que Dieu peut vous toucher là où vous êtes et peut vous guérir. Et elle croit pas forcément, mais elle dit, mais je peux pas mettre ma main sur l'écran de la télévision, parce que je suis pas... Enfin, elle était à ce qu'on en plaque, et la télévision était là-bas. Son mari lui dit, je mets la main, moi. Mets sa main. Guéri. Il se retourne, il voit sa femme debout. Guéri dans son corps. Il dit, non, mais tu vas pas me dire que c'est parce que j'ai mis ma main là-dessus que tu es guéri quand même. C'est quoi ce truc-là? Et ça l'a pas... Elle connaissait rien des églises, etc., et d'une nourriture spirituelle. Donc, à un moment donné, elle a commencé à rétrograder. Et à un moment donné, elle a rencontré des chrétiens qui l'ont emmenée, qui l'ont renouvelée dans sa foi. Et la foi est revenue. Elle était complètement guérie. Mais lui, c'était un... Alors, il avait son copain. Ouais, il avait un copain gardien qui était chrétien. Il dit, l'autre, il n'arrête pas de me bassiner avec son Jésus, j'en ai ras-le-bol de l'écouter. Puis il revient vers sa femme, il dit, qu'est-ce qui m'a filé une Bible? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Et puis il était vraiment dur de chez dur. Et il dit, un jour, de nuit, je fais la garde sur la tour de garde des prisonniers. Il avait sa mitraillette là, c'était il y a longtemps, il y a... Encore des mitraillettes à cette époque-là. Et il dit à un moment donné, je m'arrête, il dit, je regarde le ciel, il dit, Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne sais pas. Tu as vu dans quel état je me trouve, si tu existes. Change ma vie. Paf ! Il tombe par terre, la mitraillette là-bas, complètement transformée, né de nouveau. Vous savez la première chose qu'il a fait ? Il est sorti à 6h du matin de son travail, il a été chez le fleuriste, il a acheté un gros bouquet de fleurs pour sa femme. C'était la première fois de sa vie qu'il offrait des fleurs à sa femme. Et le fils, que je ne connais pas, a dit, mon père a été complètement changé, transformé dans ses paroles, dans ses attitudes, dans sa façon de vivre. Il a été complètement changé. Alléluia, parce que Dieu l'avait transformé. C'est ça, Dieu. Ce n'est pas une religion, c'est ça, Dieu. C'est vivre avec lui, c'est croire en lui, c'est compter sur lui. Et il fait des choses extraordinaires. Alléluia, si quelqu'un est en Christ, il naît de nouveau. Alléluia. Il faut qu'il naisse de nouveau. Il y a comme une nouvelle nature qui vient, comme une nouvelle naissance aux choses qu'on était complètement ignorants, ces choses qui étaient cachées à notre cœur, qu'on rencontre, qu'on touche et qui transforment notre vie. Amen. Juste le mot de la fin. Je ne changerai pas ma vie pour rien au monde. Pour rien au monde. Je vous garantis. Pour rien au monde. La vie de Jésus. Et les jeunes filles qui ont été baptisées sur le t-shirt, il y a marqué « Je crois en Jésus ». Il vous suffit de croire. Moi, vous savez, je n'aime pas la religion, quelle qu'elle soit. J'ai un sauveur personnel. Et je suis dans une église parce que mes frères ont un sauveur personnel. Et vous savez, la chose formidable, c'est un truc de fou, ça aussi. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays, aux États-Unis, au Canada, en Afrique. J'étais en Chine, etc. Vous rencontrez des chrétiens, c'est fou, ils sont nés comme vous. Ils parlent comme vous, on témoigne comme vous, on s'embrasse, on est frères et sœurs, on est nés de nouveau. On fait partie de la même famille, c'est un truc de fou. Ça, c'est glorieux, amen. Ça, c'est glorieux. Alors, libre à vous ce matin, ou de faire une expérience avec Jésus, ou de refuser, vous êtes entièrement libre. Vous pouvez rester assis, on va simplement prier. Et c'est vraiment, si vous voulez faire une expérience avec Jésus, demandez-lui simplement qu'il vienne toucher votre cœur. Et ne vous croyez pas trop pécheur, ou pas assez pécheur, ou quoi, je ne sais pas. Simplement, Seigneur, si tu peux changer ma vie, si tu peux mettre ton amour dans mon cœur, si tu peux mettre une raison de vivre sur cette terre qui est lumineuse, qui est glorieuse, qui est puissante, qui vaut le coup, alors viens dans ma vie, Seigneur.